Alors que ce temps de confinement a démarré au début du mois de mars, quelques jours plus tard, je recevais un coup de téléphone un soir en me faisant part de la situation dramatique et tragique où mon propre frère, mon deuxième frère, se retrouvait aux urgences à l'hôpital et où personne n'était ami de la famille pour être avec lui et il a été mis en soins intensifs à cause du Covid. Son épouse étant médecin, elle avait soigné des personnes et malheureusement, n'ayant pas toutes les précautions de mise, puisque au départ de ce Covid, personne ne pouvait imaginer une telle situation, elle a ramené le virus à la maison et la famille complète a été touchée. Et donc, le seul qui a véritablement été pris de plein fouet, c'est mon frère qui s'est retrouvé à l'hôpital suite à des problèmes respiratoires. Et il a été admis aux soins intensifs où ils l'ont branché sur une première machine. Quelques heures plus tard, ils se sont aperçus que cette machine ne fonctionnait pas. Ils ont mis sur une deuxième machine qui malheureusement ne fonctionnait pas non plus. Et un jour et demi après, ils se sont rendus compte du problème. Et quand ils nous ont appelés, c'était pour nous dire « Votre frère est en train de mourir ». Je vous laisse imaginer quel était notre ressenti, notre cœur. Et aussi ce sentiment de, comment dire, où on est incapable de faire quoi que ce soit, on est dans l'impossibilité, même en étant sur place, on n'aurait pas pu faire plus. Et on a un recours qui est glorieux, qui est merveilleux, qui est puissant, c'est la prière. Et on a vraiment crié à Dieu, on a demandé au Seigneur de nous secourir. Et dans la même nuit, il a récupéré plus que 90% de capacité respiratoire. Ça a été une grâce de Dieu. Ils n'ont pas eu besoin de le mettre en coma artificiel. Il est resté aux soins intensifs pendant 3 semaines complètes. Et il a été le premier à sortir de l'hôpital de Reggio. Alors il a eu le droit à la photo sur le journal, l'article à la télé, il a eu tout. Et il a partagé sa foi. Alors je ne vous dis pas, il y a des parties qui ont été coupées, parce que forcément quand on parle de Dieu, certains sont dérangés. Néanmoins, dans l'hôpital, les médecins, les infirmiers ont été très touchés de l'attitude et surtout de la paix qui régnait dans son cœur. Alors mon frère me disait, il y a eu des moments où j'étais prêt à lâcher prise. En me disant, Seigneur, si c'est le moment, ben, il faut partir, on partira. Mais en même temps, je savais que tout le monde priait pour moi et même si on n'avait pas possibilité de l'appeler, la foi et l'amour qu'on a en Christ dépassent tous les obstacles qu'on peut trouver. Et par la grâce de Dieu, il est sorti d'hôpital après un mois de permanence et après 70 jours de confinement, il a pu finalement sortir à ciel ouvert. Mais c'est une grâce de Dieu de pouvoir demander à Dieu le secours, n'est-ce pas? Et c'est dans ces moments-là que nous pouvons véritablement réaliser combien c'est important pour nous de garder notre foi en Dieu. Vous avez la foi? Oui? Combien elle est grande, votre foi? Vous savez, si déjà elle est comme une graine de sénévé, on peut déplacer les montagnes. Alors là, si la foi, elle a grandi, ben il va falloir redessiner les cartes géographiques, mais surtout celles de la foi. Mais il arrive par moments, dans des moments difficiles, comme celui qu'on a traversé, et certainement nous en avons déjà traversé d'autres, et des moments difficiles qui peuvent toucher différents secteurs de notre vie, nous avons, de la part du Seigneur, une parole d'encouragement. Et ce matin, je voudrais introduire cette reprise des réunions, parce qu'on n'a jamais arrêté. On n'a jamais vraiment arrêté. Vous aviez des messages sur Internet, vous aviez, en tous les cas, votre Bible, vous aviez le Seigneur toujours avec vous, on a toujours le Seigneur avec nous. Mais c'est un redémarrage, et il y a une parole qui est venue sur mon cœur, et j'aimerais la partager avec vous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Et cette phrase, elle est déjà merveilleuse, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque c'est une recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas combien d'entre vous, au démarrage de cette épidémie, se sont dit « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Seigneur, qui dans notre famille va être touché? Seigneur, comment on va s'en sortir ?» Et cette parole est venue rapidement sur mon cœur en disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Et Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites et on fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Amen. La première chose que Jésus fait, c'est rassurer notre cœur. Nous pourrions être fragiles du cœur face aux épreuves, face aux difficultés. Le cœur centre des sentiments. Est-ce que nos sentiments ont chaviré pendant cette période? J'ai entendu de tout et son contraire, non pas dans le cadre de l'Église, mais quand on regarde les journaux, quand on écoute les gens, on voit, il y en a des couples qui sont partis en éclats, des familles qui se sont retrouvées, des gens qui ont appris à prendre soin les uns des autres, des gens qui se sont pardonnés, et des familles qui se sont reconstruites, d'autres qui se sont détachées. Je disais, on voit tout et son contraire. Mais beaucoup de choses ont chamboulé les sentiments. Encore hier au journal, on nous présentait une famille qui quittait son logement dans une grande ville pour se retrouver dans une petite ville, dans un petit village, parce qu'elle prenait conscience qu'au cas où ils étaient malades, personne n'aurait pris soin de leurs enfants. Les priorités ont changé. Et un jeune homme qui avait acheté un appartement dans une ville autour de Paris, qui quittait son boulot et sa rémunération très haute pour choisir quelque chose de plus concret, de plus simple, parce qu'il s'était rendu compte que l'important, ce n'était pas l'argent. Les priorités étaient ailleurs. Est-ce que notre cœur a été interpellé pendant ces temps? Est-ce que Dieu a remis peut-être en place ou en phase des choses avec la réalité du terrain? Je ne sais pas vous, mais j'ai découvert qu'il y a des choses que j'avais l'habitude de faire qui ne sont pas forcément nécessaires. On peut s'en passer. L'essentiel, c'est quoi? C'est quoi pour vous l'essentiel? La paix dans le foyer? La présence de Dieu? La grâce de Dieu? ce que Dieu peut nous apporter dans notre vie, mais aussi la nécessité de prendre soin un peu plus les uns des autres. Pendant ces temps de confinement, on a peut-être utilisé autrement notre téléphone, nos SMS. On a essayé de prendre des nouvelles les uns des autres. Moi, il y a une sœur qui m'a envoyé un message, on ne se parlait pas, une sœur en Christ, hein, on n'avait pas eu d'échange depuis 2 ans. Elle m'a envoyé un message, j'ai eu à cœur de prendre de vos nouvelles. Et j'ai fait de même, et certainement vous aussi, vous avez retrouvé dans vos répertoires des personnes où vous dites, bon, ça fait quand même longtemps. Mais en même temps, on est là, on se dit, comment ils vont? Et quand vous appeliez quelqu'un, c'était quoi la première question? Ça va, c'est bien Samuel. Mais on était prêt aussi à entendre de mauvaises nouvelles, non? Les médias nous ont préparés à des situations difficiles. Et parfois, appeler quelqu'un, on était quand même avec une certaine difficulté de dire qu'est-ce que je vais pouvoir répondre si elle ne va pas bien? Quel mot dire pour donner courage? Pendant cette période, avec Elisabeth, on a essayé d'appeler tout le monde. On a essayé d'être auprès de tout le monde. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Des fois, on n'avait que le répondeur. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, je vous dis sincèrement, je n'aime pas ça. Parce que je me dis, s'il n'y a que le répondeur, peut-être la personne, elle ne va pas bien. Mais de l'autre côté, ça me poussait à prier davantage pour elle. N'est-ce pas? À se dire, Seigneur, si elle ne va pas bien, s'il te plaît, c'est toi qui interviens. Et après, d'un coup, un message, tout le monde va bien, ça se passe bien, on est dans le jardin, on jardine, c'est bien. Néanmoins, Jésus, dans le discours qu'il fera à ses disciples, alors qu'il est en train d'amener ses disciples avec lui vers Jérusalem, là où il va donner sa vie, il encourage ses disciples parce que le chemin n'est pas facile. Et certainement, le chemin qui est devant nous risque de nous faire passer par des moments difficiles. Certains, malheureusement, perte de travail. D'autres, peut-être, d'autres problèmes économiques ou, je dirais, peut-être physiques ou familiales. En tous les cas, cette situation a touché énormément, de près et de loin. Peut-être les seuls heureux dans cette période sont été les enfants parce qu'il n'y avait pas d'école. C'est vrai, les enfants? Non, hein? C'est bien d'aller à l'école. Hein? On va demander qu'ils la remettent même en été, l'école. Moi, je suis pour. Ah non, hein, Samuel, voilà. La voix de la raison. Vous voyez comme quoi les enfants, ils écoutent. Hein? Ils écoutent. Mais Jésus leur dira cette parole, que votre cœur ne se trouble pas. Que se passe-t-il quand notre cœur est troublé? J'ai noté, première chose, perte des repères. Et Jésus leur dira, croyez en Dieu, croyez en moi. Parfois, la foi peut vaciller. C'est dire, Seigneur, j'ai mis toute ma foi en toi et regarde dans quelle situation je me trouve. Et Jésus, ce matin, vous dit, nous dit, que votre cœur ne se trouble pas. Peur de perdre sa maison. Seigneur, tu sais que j'ai des crédits, je vais faire comment à payer? Eh bien, je voudrais vous dire que le Seigneur, il nous dit qu'il y a beaucoup de demeures et que c'est lui qui prend soin de nous. On n'a pas à avoir de crainte, il prend soin des petits oiseaux alors qu'il ne prendra pas soin de nous. Amen, même si on ne vole pas. Je ne vous ai pas vu arriver en battant de l'aile, mais Dieu prend soin de chacun d'entre vous. Qui a pu expérimenter la bénédiction de Dieu pendant cette période? Oui? Amen. Et est-ce que vous pensez qu'il en fera pas encore plus après? Puisqu'il promet de faire plus, on verra aussi sur ça. Ah, Seigneur, je risque de perdre ma place. Et Jésus te dit, je vais vous préparer une place. Moi, aux toutes les places que les hommes peuvent me donner, je préfère la place que Dieu me donne. Amen. Et en même temps, je voudrais vous dire, ce matin, le Seigneur vous demande de prendre votre place au sein de l'Église. Si pendant une période, vous étiez un peu dans cette incertitude, moi je prends ce que le Seigneur vous dit maintenant, mon enfant, prends ta place. Tu as ta place dans les projets de Dieu. Certains, peut-être, c'est la crainte de la solitude présente, future. Et là encore, le Seigneur dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Être avec le Seigneur. Pendant cette période, je disais ce matin, le dimanche matin, je descendais dans mon bureau. J'écoutais pas mon message puisque je l'avais prêché. Mais je prenais davantage du temps pour chanter, pour louer le Seigneur. Et ce n'était pas pour préparer une liste de chants. Vous savez, c'est différent, ça change tout. Souvent, on fait les choses parce qu'on doit préparer un culte, parce qu'on doit... Et là, il n'y avait pas de culte à préparer. Et donc, c'était mon temps personnel avec Dieu. Et combien ça m'a fait du bien, ça m'a ramené un tout petit peu au début de ma conversion avec le Seigneur. Ça m'a ramené à cette nécessité de relation personnelle avec Dieu, davantage. Ce n'est pas qu'on n'en a pas, mais on a besoin encore plus. Qui a lu plus la Bible pendant cette période? Qui a prié plus pendant cette période? Ah, on ne pouvait pas dire on n'a pas le temps, Seigneur. Le temps, on en avait. Mais c'était à nous de trouver aussi la manière de le gérer. Alors, le Seigneur nous donne aussi une orientation. Parce que quand on est troublé, on peut perdre, on peut se sentir désorienté. Seigneur, quelle est la direction que tu donnes à ma vie? Seigneur, tu m'as ramené jusque-là et maintenant, regarde, il y a tout qui part de travers. Je ne comprends pas, Seigneur, tu m'as montré que c'était la direction et là, je ne comprends plus, Seigneur. Et là, le Seigneur, il dit, où je vais, vous en savez le chemin. Et Jésus dira à Thomas, parce que là, on a deux personnages, on a Thomas, et après, on a Philippe, tous les deux avec des questions. Thomas a dit, Seigneur, comment aller où tu vas si on ne sait pas le chemin? Qui connaît le chemin? Qui est le chemin? Allô? Vous êtes là? Je vous rappelle, le masque, il est fait pour ne pas... Hein, mais il est fait pour parler. N'ayez pas peur. Qui connaît le chemin? Oui? Vous avez peur de montrer votre main? J'ai vu des mains timides. Alléluia! Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Mais si on connaît le chemin, on n'a pas le droit de s'égarer. Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre de décisions et prendre des directions qui ne sont pas celles que Dieu veut qu'on prenne. Puisqu'il est le chemin, il nous reste qu'à le suivre. Moi, je bénis tous les jours celui qui a inventé le GPS. Ah, c'est une bénédiction immense. Je me rappelle de cette période où on était avec les cartes, on faisait des plans et après on se perdait tout le temps. Mais combien c'est bien d'avoir cette petite voix qui dit « tournez à droite, à la prochaine ». Et après quand il se plante, il dit « faites demi-tour dès que possible ». Vous vous êtes trompé, non, tu t'es trompé. Et là on discute et on se dit « mais ce GPS il n'est pas bon, on va en trouver un autre, non ?» Mais quand c'est le Seigneur qui nous donne la direction, lui il se trompe jamais, hein. Mais faisons attention à bien interpréter ce que Dieu nous dit. À bien poser la question à Dieu de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Et pas dire, Seigneur, je le fais, après si ça ne va pas, tu m'aides. Moi, je me suis trouvé un jour avec quelqu'un qui, dans l'espace d'une heure, je crois qu'elle m'a dit, 5 projets différents, Dieu m'a dit ceci. Et les 5 projets allaient dans 5 directions différentes. Je lui ai dit, maintenant, tu vas t'arrêter. Et tu, parce que j'ai l'habitude, parfois dans les entretiens, je note, histoire de, je souffre un peu d'Alzheimer, donc je préfère pour bien comprendre les choses, je note. Et je lui dis, bah, écoute, première chose, tu m'as dit ça, c'est vrai ou pas? Oui, mais après le Seigneur m'a dit ça, je lui dis, attends, halte, Dieu ne change pas d'idée comme de chemise. Quand Dieu donne une direction, cette direction, elle est là. Hier soir, un frère me téléphonait, tard dans la soirée pour me partager un problème. Et il y a quelques semaines, on s'était parlé au téléphone et me disait, tu vois, le Seigneur m'a donné cette parole. Et hier soir, je lui ai rappelé, je lui ai dit, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et je pense et j'espère que ça l'a aidé à se rappeler ce que Dieu lui a dit. Et il y a des paroles que Dieu a posées dans notre cœur, peut-être on les a entendues et on n'a pas réalisé que c'était tout de suite pour nous. Ou peut-être on les a mis de côté. Vous savez, des avertissements, des interpellations. Ça a fait un peu écho dans notre cœur, mais après on est passé à autre chose. Et là, on se trouve en plein dans la situation. Et avoir quelqu'un qui nous dit, tu sais, souviens-toi ce que le Seigneur t'a dit. Et là, on voit que malheureusement, Thomas lui dit, Seigneur, mais où est-ce qu'on doit aller? Quelle est la direction si on la connaissait? Et Jésus lui dit, mais je suis le chemin. Et après, on a un deuxième personnage, vous l'avez vu? Comment il s'appelle? Philippe. On parle souvent de Thomas comme l'homme des doutes. Mais Philippe, il lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et tout va bien. Et pourtant, Jésus lui dira, mais qui a vu le Fils a vu le Père. Les deux sont un. Si on connaît le Fils, on connaît aussi le Père. J'ai toujours ce souvenir de ce moment où on va rencontrer quelqu'un qui a eu un enfant, qui a eu un bébé. D'ailleurs, cette semaine, on a eu l'occasion avec Elisabeth d'aller voir une sœur de l'église qui a eu son bébé pendant cette période de confinement. Et là aussi, ça a été un miracle, un super miracle. Elle m'avait partagé les difficultés qu'elle avait eues à chaque fois qu'elle attendait un enfant, parce qu'elle n'arrivait jamais à terme, et donc c'était toujours un peu des prématurés, très difficile pour elle, très éprouvant. Et deuxième chose, elle me disait, maintenant avec cette situation, je ne vais pouvoir même pas compter sur mon mari à côté de moi pour l'accouchement, parce qu'il lui interdisent d'être présent. Je lui dis, tu sais, Dieu va s'en charger. Et donc, cette sœur, elle est arrivée à son terme. Tout s'est bien passé. Mais c'était le moment de l'accouchement. Et donc, ils se sont mis dans la voiture, ils sont allés à l'hôpital, ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont dit non, mais il faudra patienter. Elle n'avait pas trop de patience, mais elle a appris. Et ils sont repartis à la maison. Et après, finalement, les choses commençaient à devenir compliquées. Et ils sont repartis à l'hôpital. Vous savez quoi? Elle a accouché. Son mari était à côté d'elle. Dans la voiture. Tout s'est bien passé. Je lui avais dit que le Seigneur allait s'en charger. Le Seigneur a fait que son mari soit avec elle. Mais après, la manière de Dieu de diriger les choses, des fois, elle nous dépasse. Alors, j'étais loin d'imaginer qu'elle aurait accouché dans la voiture. Mais comme quoi, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. L'important, c'est que tout le monde va bien. Et on a vu le bébé, il est magnifique. C'est une jolie petite fille. Vous aurez certainement dans les prochains temps l'occasion de la voir. Amen. Mais compter sur le secours de Dieu et dire, Seigneur, voir toi, voir le Père. Alors vous savez, j'ai vu la petite et j'essayais de voir, qui ne l'a déjà pas fait, voir les ressemblances avec la maman et le papa. Tu ressembles plus à maman ou à papa, Marc? Dis-moi. Tu sais pas, t'as oublié. Mais en général, on cherche les ressemblances, non? Ah, et des fois on dit, ah, digne fils de son père, il lui ressemble. Il parle comme son père. Il agit comme son père. Il marche même comme son père. Mais vous voyez, Jésus, à quelque part, il avait ce soin de faire tout comme le Père. Pour qu'on puisse dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois que cette responsabilité nous incombe, nous aussi, d'être comme Jésus. N'est-ce pas? Est-ce qu'on désire être comme Jésus? Pour qu'on puisse être identifié au point, comme ça a été pour les disciples, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. À cause de quoi? La manière de faire? La manière de parler? Certainement, ce n'était pas à cause des études qu'ils avaient faites, puisqu'ils vont dire de Pierre, il n'avait pas fait d'études. Mais ils le reconnaissaient à cause de leurs paroles. Que nos paroles puissent nous permettre d'être identifiés comme enfants de Dieu. Et Jésus ira plus loin, et ça nous concerne tous, puisque Jésus, pas seulement il fait cette promesse de dire « croyez en moi », mais il nous dit aussi qu'on fera des choses plus grandes. qui a envie de vivre des choses plus grandes avec le Seigneur? Oui? Sûr? Ça vous pend au nez, hein? Ah, je vous avertis, hein? Mais vous savez, c'est pas pour dire « moi j'ai fait des choses plus grandes que Jésus », pas du tout. Parce que ces choses, si Jésus n'a pas pris toute la place dans ta vie, excuse-moi, tu passes à côté. Le but, c'est pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que Christ soit glorifié. Et pour que ces choses puissent se produire dans notre vie, peut-être qu'on avait besoin de remettre les pendules à l'heure dans notre vie spirituelle, de retrouver, de reprendre du temps avec Dieu, et de mettre de côté tout ce qui nous empêchait véritablement de méditer la parole de Dieu, de nous concentrer sur Christ, et de nous dire que l'essentiel, ce n'est pas le matériel, c'est Christ en nous. Et Jésus dit, et il a cette volonté, ce désir d'être en nous, d'être avec nous. On a certainement ressenti la présence de Dieu dans nos temps de prière, dans nos temps de lecture, dans nos temps de méditation, même peut-être quand on pleurait. On a senti que Jésus était là et qui essuyait nos larmes. Alors Jésus, il veut les rassurer et il veut nous assurer aussi. Mais il y a une parole, verset 15, « Si vous m'aimez, aimez-vous Jésus. » Comment? Un peu? Beaucoup? Passionnément? Comment? Comment on fait preuve d'amour envers Jésus? Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec, non? Quand j'ai rencontré Elisabeth, elle habitait en France, j'habitais en Calabre. 1800 kilomètres de distance. On se voyait une fois tous les 4 mois, pendant une semaine. Et après, on est reparti encore une fois pour 4 mois. Et vous savez, il n'y avait pas ces contrats de téléphone maintenant où c'est la box, tu appelles, tu parles pendant des heures, personne t'embête. Ah non, non, ça coûtait cher. Ah, ben j'ai financé le système téléphonique italien, moi. Et elle, le côté français. Comme ça, tout le monde est content. Non? Mais le désir qui était le nôtre, c'était de se retrouver ensemble, de finalement dire, Seigneur, voilà, on est ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Combien on aime Jésus. Est-ce qu'on est prêt à être avec Jésus? Oui? Vous êtes sûr, hein? Sûr. Mais est-ce qu'on est déjà préparé à le rencontrer? Est-ce qu'on est dans cet état d'obéissance que Dieu attend de nous? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à partir avec lui? Est-ce qu'on a fait tout ce que le Seigneur attendait de nous? Ou est-ce que Dieu nous fait encore grâce d'un peu de temps pour qu'on règle encore nos affaires, pour qu'on règle notre vie? Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelin. Je demanderai au Père, je prierai le Père qui vous donne un autre consolateur, l'Esprit de vérité. C'est beau ça. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vous savez, il ne va pas nous raconter des belles histoires. Il ne va pas nous dire, tu sais, tu vis dans le péché, mais ce n'est pas grave. Avance quand même, dis 2 Alléluia et 3 Gloire à Dieu et tout est passé. Ah non, non. L'Esprit de vérité, il va nous dire, si tu continues, tu es perdu. Les pécheurs, les menteurs, ne rentreront point dans le royaume des cieux. Alors peut-on être chrétien et menteur, chrétien et pécheur? Je pense que c'est incompatible. Aimer Jésus, c'est être comme lui et accepter cet esprit de vérité, puisqu'il est question qu'il demeure pas seulement près de nous, mais en nous. Mais il y a une phrase qui m'a interpellé et qui nous rappelle aussi la Trinité. C'est ce dernier verset, au verset 18, qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Je viens vers vous. Je viens. C'est Jésus qui s'engage à venir vivre et habiter dans notre cœur. C'est pour cela qu'on fera des choses encore plus grandes. Et comme je disais tout à l'heure, certainement que ce temps de confinement nous a permis peut-être de remettre des priorités dans notre vie, de prier plus pour nos familles, de demander davantage que Dieu touche le cœur d'un conjoint qui n'est pas converti, d'un enfant qui n'est pas converti, d'un parent qui n'a pas encore pris la bonne décision. Ça nous a peut-être permis de prier pour nos voisins. J'ai reçu le témoignage d'une chrétienne, d'une sœur, ici dans une église dans le sud de la France, qui avait parlé du Seigneur à un couple d'amis, mais qui, bon, ils avaient écouté respectueusement, mais bon, ça s'arrête là. Et pendant ce temps de Covid, donc le mari de ce couple, il est fini à l'hôpital, il a été mis en soins intensifs et il a été plongé dans le coma. Et cette femme, elle a appelé son amie chrétienne en lui disant, tu sais, mon mari, il est à l'hôpital, il est dans le coma, est-ce que vous pouvez prier pour lui ? Ah, d'un coup, on se rappelle qu'on peut demander la prière. Et donc, cette sœur, elle lui a dit, mais oui, certainement, je vais demander à l'Église de prier. Et l'Église, elle a prié. Et cet homme était dans le coma. Et donc, lui, il ne savait pas ce qui se passait. Et après être sorti du coma, son épouse, finalement, a pu, après des semaines, aller lui rendre visite. Et là, à cette visite, elle lui dit, tu sais, j'ai même appelé telle personne et je lui ai demandé qu'il prie pour toi. Et quelle fut la surprise de cette femme quand elle a entendu son mari lui dire « Pendant que j'étais dans le coma, j'ai eu une vision où j'ai vu des gens prier pour moi. » Et aujourd'hui, ce couple attend juste la réouverture de l'église pour aller à l'église. Amen. Est-ce que le témoignage de cette sœur était bon? Est-ce qu'elle a pris le temps, est-ce qu'elle a perdu du temps en témoignant? Même si la première réponse n'était pas celle qu'elle espérait. Mais elle a témoigné. Elle a semé. Et au moment opportun, le Seigneur a fait croître. Moi, je crois qu'il y a des œuvres dans lesquelles le Seigneur nous attend pour que son nom soit encore proclamé et davantage. Là où vous travaillez, là où vous habitez, là où vous êtes, le Seigneur attend que vous puissiez être des témoins de la grâce de Christ. Et vous ne serez pas seul en témoignant. Puisque Jésus nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Mais vous voyez dans la pensée, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Premièrement, avoir le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est avoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Pas une seule partie, mais la totalité. Dieu habite dans notre cœur. Mais aussi, nous garder cette espérance du retour du Seigneur qui est proche. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier quelques instants et demander encore au Seigneur dans sa bonté, lui qui est celui qui nous accueille, lui qui est celui qui nous reçoit, qui nous demande aussi d'accueillir le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit et de vivre dans l'Esprit de vérité, dans sa parole, puisque nous avons besoin de Jésus. Jésus a fait la promesse de ne pas nous laisser orphelins. Seigneur, je veux te prier encore ce matin pour tous ceux et celles qui sont présents dans ce lieu, mais aussi ceux qui nous écouteront sur le site internet. Tu sais exactement le besoin de chacun, les peurs qui peuvent habiter des cœurs, les craintes qui peuvent toucher certains compte tenu de la situation qu'ils traversent. Seigneur, nous te prions qu'ils puissent ressentir ta présence à leur côté, que ta paix puisse les inonder, Seigneur, les transformer, leur donner, Seigneur, cette assurance d'un secours qui vient de ta part. Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Tu permets, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous soyons toujours, Seigneur, au bénéfice de ta grâce. Seigneur, je te prie encore pour ceux qui ont traversé des moments difficiles au niveau de la santé. Ceux qui ont besoin, Seigneur, encore de ton secours, Seigneur, pour une guérison physique, morale, spirituelle. Seigneur, nous pouvons compter sur ton secours et ton aide. Seigneur, merci encore de renouveler les forces de chacun et de nous encourager, Seigneur, à ne pas vivre dans la crainte, mais à marcher avec assurance et proclamer haut et fort que Jésus revient bientôt. Et à toi seul, Seigneur, toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Juste avant de chanter un dernier chant, j'invite les musiciens et les choristes à remonter sur l'estrade. J'aimerais juste vous donner quelques annonces. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour la cohésion que l'Église elle a gardée dans le fait de prendre des nouvelles les uns des autres. Certes, vous n'aviez pas tous les numéros, de téléphone. Avec mon épouse, on a essayé de faire au mieux. Mais chacun d'entre vous, vous avez essayé d'élargir votre réseau. Est-ce que tu as le numéro de telle sœur ou de tel frère? Et vous...